Objectif.
16h05. Bon vendredi, bon début de week-end. Bienvenue chez vous à Boulevard 102.1. Bienvenue chez nous dans le retour. On est chanceux de l'avoir avec nous autres. Parce que je pense qu'il fait un marathon de 48 heures en ligne du côté de RDS en fin de semaine avec les matchs de recrues, les Grands Prix à des heures pas possibles. C'est le fun avec son expérience qu'on allège son horaire pas mal quand même. Hein? Notre ami Pierre-Aude. Salut Pierre. Comment
bonjour,
ça va?
Hey, ça va très bien, merci. Bonjour Véro, bonjour Audrey, salut tout le monde à l'écoute. Ben, en fait, c'est un peu ma décision, mon cher Denis. Quand je serai rendu au jour où je voudrais lever le pied, je leverai d'abord la main pour dire que je veux lever le pied.
Mais là,
entre-temps, c'est comme ça en fin de semaine, mais je suis vraiment très enthousiaste. Le Grand Prix de Bakou, c'est vraiment spécial. On pensait que ça ne marcherait pas, que ça ne fonctionnerait pas du tout en Azerbaïdjan. Uh-huh. Au contraire, je trouve que c'est, au niveau de la télé, c'est magnifique. On en parlera dans quelques secondes. Là. On découvre une vieille ville qui remonte à quoi, au 12e siècle, dont les beaux vestiges remontent au 12e siècle. Puis après ça, ben, tu as le Bakou moderne.
Très moderne, oui.
Mais bon, il y a plein de belles choses. On en parle tantôt, comme je te dis. Mais comment ne pas avoir hâte de faire un « et le but », de décrire un premier match. Puis Denis, et ça aussi, ce sera un peu notre ligne éditoriale, si tu veux, pour parler du Canadien et du match des recrues en fin de semaine, des deux matchs, en fait, c'est que là, ça va dans le sens de l'engouement dont tu as parlé, l'intérêt. Puis l'intérêt a créé quoi? L'intérêt a créé de la curiosité. Puis la curiosité, éventuellement, ça crée de la connaissance. Hein?
Ben oui.
Alors là, on est sur le point de vivre ça en fin de semaine avec surtout les défenseurs, puis il y en a trois qu'on va revenir, puis tu sais lesquels dont on va parler, mais aussi quelques bons jeunes attaquants qu'on attend dans le décor ou qu'on a hâte de voir s'ils ont affaire dans le décor. Tu vois ce que je veux dire?
Comment tu te prépares en fonction d'un week-end comme celui-là où tu as un grand prix à décrire, où tu as énormément de joueurs que... Tu dois apprendre. Il est en train de me montrer. OK. Sur la conversation Zoom qu'on a présentement.
Sans faire de la télé.
Oh mon Dieu. C'est du travail de moine. Tu as les alignements du Canadien et des Leafs de Toronto. Ça, c'est-tu toutes des statistiques que tu vas chercher toi-même?
J'en avais quelques-uns déjà en mémoire. Parce que, tu sais, ma banque a remonté à 25 ans si je n'avais pas perdu un disque dur externe un jour. Mais là, ma banque remonte à 10 ans. Et quand j'arrive près des matchs préparatoires, ce que je fais, c'est que je fais à peu près toute la liste des joueurs qui sont dans l'organisation du Canadien. Je commence par ceux-là.
Oui.
Donc, tu sais, l'alignement de 23 joueurs, là, il est assez prévisible, Denis.
Ouais.
Mais là, après ça, tu as tous les joueurs qui ont des contrats à deux volets qui sont dans la liste des joueurs officiels du Canadien. Tu as les joueurs recrues qui ont été repêchés par le Canadien, même s'ils n'ont pas encore de contrat professionnel. Et ensuite, tu as les joueurs qui ont des contrats de la Ligue américaine.
Oui.
Donc, il faut que tu essaies d'aller jouer aussi sur les sources de la Ligue américaine pour avoir des joueurs qui sont susceptibles de jouer dans les matchs préparatoires. Là où je veux en venir, c'est que si je veux être prêt d'avance, je prépare environ 60-70 joueurs du Canadien. Puis là, ben, j'essaie de préparer la même chose pour les équipes qu'on affronte en match préparatoire, parce qu'on ne connaît pas encore les coupures, on ne sait pas qui va affronter qui. Alors, je te dirais qu'avec les Flyers, avec les Devils, qui sont les deux premiers matchs préparatoires, si tu mets les Leafs, la Ligue américaine et tous leurs joueurs recrues, même chose pour Ottawa, là, j'ai peut-être 200 joueurs, là, 250 joueurs que j'ai préparés là, depuis les dernières semaines. Donc, je suis vraiment prêt pour demain, pour en fin de semaine. Il reste à apprendre les numéros par cœur, surtout ceux des Maple Leafs.
Puis là, en plus, tu as une difficulté supplémentaire, Pierre, parce que avec le nouvel écran du Centre Bell, toi, tu ne vois pas la glace pantoute, là, je veux dire, il n'y a pas de chance. Il va falloir que tu y ailles à l'aveuglette, là, comme on dit. Là.
Je suis allé pour une fonction officielle hier au Centre Bell pour préenregistrer un message. Et ça m'a permis, avec Paul Galland, qui est le grand Manitou là, de l'animation dans le Centre Bell, qui est excellent d'ailleurs, là, un des meilleurs dans la Ligue, sinon le meilleur dans la Ligue. On s'est promené après ça dans le Centre Bell. J'ai pas besoin de te dire qu'ils sont fiers de leur nouveau jouet. Fait qu'ils veulent le montrer.
Hein? J'imagine, oui.
et c'est, je vais t'avouer, écoute, puis moi, tout ce que j'avais dessus, c'était des bandes de couleurs, comme on dit en bon langage de télé, en français, des color bars.
Ouais.
Et tout ce que j'avais, c'était ça. Mais j'ai été sans mots là, pendant une seconde ou deux. C'est vraiment impressionnant. C'est évidemment non seulement plus gros, plus grand, ça a une meilleure résolution, évidemment. Écoute, moi, je te dis ça à l'œil, c'est pas scientifique, là. Au minimum, je pense qu'on est... On frôle les deux lignes bleues.
Hein, t'es-tu sérieux?
Non, je te jure, là. Mais mon premier réflexe, ça a été peut-être... Est-ce que ça dépasse peut-être même un peu les deux lignes bleues? Tenez-moi pas pour acquis là-dessus. mais on est vraiment pas loin, là, de frôler au minimum les deux lignes bleues. Donc, mais évidemment, tu peux pas avoir ça dans les quatre côtés. Donc, on a vraiment un écran géant qui est pas carré, qui suit la forme de l'amphithéâtre. Mais c'est exceptionnel ce à quoi on a pensé. C'est qu'on a pensé à ceux qui ont des billets dans les premières sections en bas.
Ouais.
Qui vont passer la soirée à se défaire le cou pour regarder en haut. Ben, tu sais qu'est-ce qu'on a fait? On a installé des écrans d'appoint en dessous du grand écran principal.
Puis on les a mis en angle?
On les a mis en angle pour leur donner un plus grand confort de visionnement de ce qui va se passer sur le grand écran. Alors, on a été vraiment aussi loin que ça, dans le souci du détail.
Mais vous autres, vous êtes dans les hauteurs du Centre Bell, la galerie presse, vous voyez plus rien?
Non, moi je l'ai vraiment directement devant. En fait, j'ai le meilleur siège pour l'écran géant.
Tu l'as-tu checké hier? Tu l'as-tu vérifié?
Oui, je suis allé m'asseoir à mon siège. Okay. Et ça, mais ça me rappelle Tampa. Moi, le meilleur exemple, le plus proche que j'ai, c'est Tampa. Et c'est absolument génial parce que y a deux choses que tu veux. Tu veux en profiter de l'écran géant parce qu'on a beaucoup d'informations. Ça va m'arriver même des fois, moi, de m'en servir pour décrire le match parce qu'il y a un meilleur angle pour une mise en jeu, par exemple, ou quelque chose comme ça. L'autre chose, tu veux t'assurer cependant que ta vision oblique soit pas obstrué pour ce qui est important.
Ouais.
Alors, évidemment, la première importance, c'est la glace, tu l'as dit tantôt, un peu à la blague. Aucune obstruction sur la patinoire au complet, dans le sens surtout de la largeur. Aucune obstruction, bien sûr, sur le banc des pénalités qui sont de mon côté. Mais je vois très bien aussi le banc des deux équipes. Donc, je peux voir les changements pendant le jeu. Je peux avoir un contact visuel avec Marc.
Avec Marc, ben oui.
Bien sûr. Je peux très bien voir le corridor qui mène vers le vestiaire pour les joueurs qui entrent et qui sortent. Bref, il n'y a aucune incidence négative sur notre travail à nous, les gens de la radio et de la télé. Donc, bravo, c'est un très beau succès. Et puis, je peux te dire, comme je te dis, on prend ça au sérieux, on a fait des tests et des tests et des tests. Et c'est une très belle occasion en fin de semaine parce que même si ce sont des matchs de défi de recrue, Denis, on ne cachera pas le grand écran. Là, on va s'en servir.
Ben oui.
Et probablement, ça va faire un test aussi là, pour les gens de la technique au Centre Bell. Alors, c'est bien réussi, là, ma première appréciation.
Pierre, j'ai eu l'immense privilège de te voir travailler pendant un match préparatoire ici au Centre Vidéotron. Et une des premières choses qui m'a saisi, c'est de voir que tu regardais directement sur la patinoire pour suivre l'action. Moi, j'avais l'impression que tu étais inondé d'écrans de télévision autour de toi, en haut sur la passerelle. Là, je viens de voir tes alignements partant pour la fin de semaine. Tu as 4-5 feuilles de notes de recherche. Ça, c'est quelque chose que tu as devant toi. Quand tu travailles pour un match de hockey, qu'est-ce que tu as devant toi pour ça? Quand tu es au Centre Bell, est-ce que tu as des écrans, des moniteurs? Qu'est-ce que tu as d'autre quand tu travailles et que tu décris un match de hockey?
Bon, ben mes feuilles, c'est toujours sur quatre côtés, en fait. Deux pour chaque équipe.
Oui.
Ce sont donc les attaquants d'un côté, défenseur et gardien de but de l'autre. Tu te rappelles, tu as vu ça?
Oui.
Puis, il faut que je mette ça dans des petits plastiques transparents, là, comment on appelle ça, des micas. Est-ce que c'est encore
oui,
le bon
terme? Ça s'appelle encore comme ça.
Bon.
Des petites pochettes là, en plastique. Là.
Et Véro, tu sais pourquoi? C'est parce que j'ai souvent renversé un café, un Coke Diète ou...
on apprend dans ce temps-là.
Ou un jus de raisin. le pire, c'est vraiment le jus de raisin. Et pas fermenté, là, le jus de raisin.
OK, pas ce qu'on appelle un bon rouge.
Non, non,
là.
Du bon vieux Welsh.
Non, pas pendant un match. Alors, j'ai donc appris qu'il faut mettre ça dans des petits protecteurs. Et donc, ça me permet d'avoir d'abord et avant tout les attaquants, parce que tu le veuilles ou non, c'est ça d'abord qui se produit. Hein. Ça, oui, les défenseurs relancent l'attaque. Mais je te dirais que ça, j'avais ça depuis... j'ai fait 36 ans que j'ai ça devant moi. Au début, c'était des petits collants d'enveloppe, des adresses. Tu sais, des petits collants d'adresses.
Oui.
Et là, à chaque match, je refaisais à main les 20 quelques joueurs du Canadien et les 20 quelques joueurs de l'équipe adverse. Là, je les faisais à main à l'hôtel l'après-midi, quand on était à l'étranger, chez moi, pour les matchs à domicile. Et je collais ça par trio. Bon, des fois, le trio, c'était pas celui que t'anticipais. Là, c'était déjà une pleure de banane pour toi. Et je collais ça un à côté de l'autre.
Wow.
Puis quand le match était fini, au début, je gardais ça en souvenir. J'ai réalisé que j'étais rendu avec une pile qui dormait dans mon bureau.
C'est moi qu'on appelle ça du hoarding.
Ouais. C'est comme les chandails à Denis.
Oui, exact, c'est pareil.
Sauf que Denis a au moins de raison avec ses chandails. Moi, j'avais aucune raison.
Mais alors, c'est drôle. Pierre, j'aurais pensé que tu aurais eu un genre de recherchiste ou quelqu'un qui t'aidait, mettons, tu sais, à mettre ces affaires-là en ordre. Ou sais-tu que ça t'aide à retenir le tout? Ou...
Ah, ben voilà, ça, c'est une très, très bonne conclusion. C'est que, d'abord, oui, on a toujours quelqu'un à côté de nous, mais dont la principale mission, Audrey, c'est de servir les auditeurs ou les téléspectateurs avant de me servir moi. Donc, si Michel Lebel était assis à côté de moi, si les autres statisticiens sont assis à côté de moi, comme David aussi, David Pelletier, eux, ils ont d'abord et avant tout la responsabilité de donner la bonne information au camion de production pour que vous, à la maison, vous ayez sur les tableaux, sur les bas de vignette, bref, que vous ayez l'information juste. Et ça, c'est la priorité. On va me refiler de temps en temps des petits détails sur le match, mais la préparation de base, biographie statistique, historique, ça me revient. Et pourquoi je l'écris à chaque match, c'est que ça m'aide à l'assimiler et ça m'aide à retenir quelques éléments de base qui font que j'ai pas besoin de regarder mes feuilles. Ensuite, ce qu'on a eu depuis le premier jour, puis là, vous allez voir l'évolution en 35 ans, on avait les notes de presse. Elles existent encore, les notes de presse.
Ah oui.
Et elles sont maintenant standardisées. Ça, c'est extraordinaire. Selon que tu allais faire un match à New York à l'époque contre les Rangers, ou que tu allais à Philadelphie, ou que tu allais à une équipe dans l'Ouest, ou encore que tu revenais dans nos bonnes vieilles pantoufles au Centre Bell, il n'y avait rien de standardisé. Tu cherchais une information, tu vas peut-être la trouver, peut-être tu ne la trouveras pas. Tu allais en entraînement du matin, des fois c'était prêt, la plupart du temps c'était pas prêt. Donc tu allais à l'entraînement du matin, tu espérais avoir tes papiers pour l'hôtel l'après-midi, la plupart du temps tu ne les avais pas. Maintenant, tout est standardisé par la Ligue nationale. Tu as systématiquement le même format d'information de base sur les notes de presse. Et les notes de presse, très souvent, sont disponibles la veille du match, mais au minimum, elles sont disponibles à 8 heures le matin.
Ça, c'est efficace, hein?
Sur le site. Donc, on est écolo aussi, parce qu'on n'a pas besoin d'imprimer tout le temps 52 pages, là. Des fois, on en imprime 7-8 pour avoir l'information dont on a besoin. Et ça, effectivement, Véro, c'est génial.
Qu'est-ce qu'il y a dans les notes de presse, Pierre, pour les gens qui ne savent pas de quoi on parle?
Ah, écoute, il faudrait éventuellement que je vous en apporte un exemplaire. Vous pourriez peut-être le mettre sur votre site web, là, si ça intéresse les gens.
Oui.
Mais la première page, c'est le bonne vieille alignement des deux équipes, un côté de l'autre. C'est ma première référence. Après ça, tu tombes sur les alignements des deux équipes, mais avec plus de renseignements sur l'âge, la taille, les joueurs blessés. Bon, troisième page, là, tu tombes sur les statistiques à jour des deux équipes. Quatrième page, tu tombes sur les résultats un contre l'autre. Après ça, cinquième page, tu tombes sur l'historique un contre l'autre.
Et ainsi de suite.
Et ensuite, tu as des statistiques, jeu de puissance, infériorité numérique, buts en infériorité, les minutes de pénalité, les tirs par période, les buts par période, tu vois ce que je veux dire?
Oui.
C'est beaucoup plus statistique. Et ça, c'est... Et tu as le rang de l'équipe dans la Ligue nationale, dans chacun des critères. Puis après ça, tu tombes sur des pages et des pages un peu plus biographiques sur le joueur. Donc ça, on a ça depuis le premier jour. Puis après ça, la Ligue nationale elle-même a sa publication statistique quotidienne qui, là, te donne des chiffres à l'ensemble de la Ligue. Alors, les meilleurs pointeurs recrues, les meilleurs pointeurs chez les défenseurs, les meilleurs gardiens de but, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce qui est ajouté maintenant et qui ajoute donc des écrans. Là, jusqu'à maintenant, il n'y a pas trop d'écrans, mon cher.
Oui, c'est ça, hein?
Là, on est archaïque. Là, on est des dinosaures, là, jusqu'ici. Mais il y a maintenant deux écrans que j'utilise.
OK.
En fait, parfois trois, mais surtout deux. La Ligue nationale a... je pense que vous l'avez aussi, ne serait-ce là, que sur le site de la Ligue nationale, si vous allez sur votre tablette, vous regardez un match. En anglais, ça s'appelle « Event Summary ». Donc, le déroulement du match, le sommaire du match, mais pas sommaire but marqué seulement et puis les mentions d'assistance. Tu as presque en temps réel les pourcentages de mise au jeu, par exemple. Quand tu m'entends dire « c'est 38% ce soir pour Nick Suzuki », c'est parce que j'ai l'information presque en temps réel qui vient de la Ligue nationale. Si tu m'entends dire « le Canadien a été victime jusqu'ici de 9 revirements », c'est sur la même page. Si tu m'entends dire « il y a 12 mises en échec contre 4 », c'est le même service de la Ligue nationale qui s'appelle « Event Summary », le sommaire du match avec ces chiffres-là, et qui pour moi, donne une mine d'informations extraordinaires et qu'on apprend à regarder. Ce qui s'est ajouté au fil des années, donc dans les 3 ou 4 dernières années, c'est parce qu'on a maintenant accès aux informations qui sont fournies à partir des petits transpondeurs que porte chaque joueur.
C'est-à-dire?
Parce que tu sais que les joueurs maintenant sont identifiés sur la glace. Ils ont une petite puce qui les identifie.
Ah oui, les puces qu'ils ont installées avec le vaccin de la COVID. Là,
ouais, moi, j'appelle ça un transpondeur parce que c'est en
quoi,
aviation.
C'est des AirTags qu'ils ont mis dans leur short? Ou
Ben, ça ressemble à ça. Ben, là, je suis dans le patin plus que dans le
Véro, vous l'allez les installer à Toulouse.
Parce que si la puce se déplace, ça peut être un petit peu inconfortable. Dans le alors, là,
je sais pas ce qui se passait, j'en trouve plus.
Bien, Cole Caulfield semble avoir des démangeaisons au niveau de l'aine, la marque.
Non, il replaçait simplement sa coquille. Bon, enfin, bref. Alors, non. Mais c'est extraordinaire. J'appelle ça un transpondeur d'abord parce que c'est ça techniquement. C'était ça dans les avions depuis des années. Comment est-ce que le contrôleur aérien peut reconnaître sur son radar? Comment est-ce qu'il peut reconnaître Air Canada 864 et Air France 032? Ben, il les reconnaît parce que chacun a son transpondeur et chacun a son code transpondeur pour se différencier de l'autre sur le radar. Donc, quand on est arrivé avec ça dans la Ligue nationale, qu'est-ce que ça nous a donné? Ça nous a donné, moi, la statistique la plus importante pour moi, c'est le temps passé sur la patinoire.
Ah ben oui, hein?
Alors, quand tu m'entends des fois, quand des fois Marc va dire, Pierre, il me semble que ça fait longtemps que Jack High est sur la patinoire, moi, je me lève un œil rapidement parce que là, je ne l'ai pas dans mon champ de vision. Il faut que je lève mon œil droit puis je regarde. T'as raison, Marc, on en est à 1 minute 34. Tu sais, passer une minute, là, ça commence à être un peu en dehors de la norme. Et ça, c'est extraordinaire parce que des fois, tu as des situations que tu vois, mais t'aimes ça avoir l'information. Donc, ça, c'est un complément d'information. Écoute, sur ce cadran-là, sur cet écran-là, on a le nombre de kilomètres parcourus par le joueur.
Pendant tout le match?
Oui, jusqu'au moment où tu regardes la statistique, Audrey. Et puis évidemment, quand le joueur, dès qu'il sort et qu'il revient au banc, son nom apparaît en rouge au lieu d'en vert sur l'écran. Donc, tu as ça aussi comme information. Quoique ça, pour moi, c'est pas trop difficile à voir d'en haut. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est ça. C'est surtout c'est surtout tout ce qui est mesurable par le déplacement du joueur. Et comme je te dis, ça, moi, surtout la mine d'or là, qu'on a maintenant, c'est la durée sur la patinoire. Et on me dit que là, la Ligue cherche à innover là-dessus et ses partenaires, en fait, les partenaires cherchent à innover. C'est que là, maintenant, je pense qu'on va avoir une alerte rouge si le joueur atteint la fameuse minute.
La minute, oui.
Je ne sais pas si ça va être une minute et quart. En tout cas, bref, c'est à eux à établir le standard.
Okay.
Mais on va avoir même une alerte pour nous signaler que là, la situation est inhabituelle pour le joueur. Ah. Alors, souvent, on me demande, tu sais, en 35 ans, qu'est-ce qui a changé? Bien, en fait, vous voyez qu'il y a encore plein d'outils de base que j'utilise et que mes collègues utilisent encore à travers la Ligue nationale. Donc, ça n'a pas tant changé que ça. Et on est encore juché en haut pour décrire parce que même si des fois, on pense qu'on est trop haut, Denis, ça demeure la meilleure place pour décrire du hockey. Trop bas, on perd la perspective. Mais vraiment, ce qui a changé, c'est l'accès à une information instantanée à partir de petits modèles réduits très simples qui n'existaient même pas. On ne pouvait même pas penser que ça existerait quand j'ai commencé à faire ça. Puis, en conclusion, ce dont on parle, tu peux facilement transposer ça dans l'univers de la F1 qui nous permet de faire notre travail beaucoup plus complètement, je dirais même plus professionnellement, parce qu'on y a accès à bien assis dans nos studios, même dans nos studios de remplacement à l'île des Sœurs.
Ben, je voulais justement t'amener là, Pierre. C'est quoi la différence de matériel et de préparation? Parce que là, tu vas faire les deux en fin de semaine pour le Grand Prix de Baku. Qu'est-ce que tu as devant toi? Qu'est-ce que tu prépares à l'avance? Puis au niveau des écrans, c'est quoi que tu tiens de près au niveau statistique ou au niveau de la préparation?
Ben là aussi, on est gâtés, Denis, parce que on a des... on a des ressources qui sont très, très bonnes et qui reviennent systématiquement de Grand Prix en Grand Prix. Elles peuvent venir de la Fédération internationale. Elles peuvent venir de la F1 elle-même, qui, évidemment, non seulement est commercialisée par Liberty Media, mais qui est aussi organisée par Liberty Media. Et nous, les détenteurs de droits, on a un complément d'information, surtout un complément d'information vidéo, pour mieux vous servir, vous les téléspectateurs. Exemple, si tu veux, en fin de semaine, on va parler de la carrière d'Adrian Newey.
Oui.
Ben, l'AF1 a préparé un document pour tous les diffuseurs du monde entier pour nous aider à illustrer notre propos sur la carrière d'Adrian Newey. Donc, tu vas le voir à l'œuvre chez Red Bull. Peut-être que tu vas le voir derrière sa planche à dessin. Peut-être que tu vas le voir à l'époque où il était chez McLaren ou à l'époque où il était chez Williams. Nous, on va déjà faire ça en partie, mais l'AF1 organise très bien tout ça. Donc, en F1, j'ai moins besoin d'assimiler pilotes, parce que ce sont toujours les 20 mêmes pilotes.
Ouais, t'es connais.
Ils
ne
changent pas d'alignement aux autres, à moins d'exception.
Exactement. Alors que, avant d'avoir fait le tour au hockey, il faut que je prépare 31 autres équipes. Alors qu'en F1, t'as toujours les mêmes 20 pilotes. Puis on vient qu'on mette nous-mêmes nos mises à jour. Donc, je travaille beaucoup plus avec des... Et on a de très beaux graphiques. Encore là, je pourrais vous les montrer, mais il y a juste vous trois qui allez les voir. Mais on a, par exemple, tiens, je vais te la montrer quand même, on pourra l'expliquer. Cette page-ci, là, elle est extraordinaire.
Okay.
T'as à peu près 20 d'informations extrêmement pertinentes.
Juste sur une 8 et demi par an.
Appelons ça une fiche technique de Grand Prix, là, assez complète. Là.
D'ailleurs, celle-là, c'est son titre, quand tu vas la chercher sur nos sites.
Okay.
C'est le Tech Preview. Donc, c'est la fiche technique en prévision de chaque Grand Prix. Écoute, tu as même la météo là-dessus. Tu as là où le circuit est classé selon l'appui, selon l'usure des pneus, et ainsi de suite. Tu as des graphiques sur quel est le stress sur les pneus. Tu as la différence de gain de performance entre sans DRS avec DRS. Tu as les stratégies probables. Tu as le temps perdu si tu fais un arrêt au puits sous drapeau vert ou sous neutralisation. On a ça sur une page. Alors, ça, c'est vraiment extraordinaire. On n'avait pas ça il y a quelques années. Alors, et évidemment, avec la petite application F1, puis si vous payez l'abonnement, puis je ne fais pas une pub, là, vous ferez bien ce que vous voulez, mais si vous payez, je pense, le 5 $ par mois,
vous l'avez.
Ben, vous avez l'information qu'on a quand on écrit, c'est extraordinaire. Vous avez sur le moment quel pneu, quelle gomme est utilisée. Vous avez, bien sûr, le temps de passage. Vous avez les écarts. Vous avez, enfin, bref. Alors, c'est vraiment génial pour notre travail. Encore faut-il suivre la parade. J'ose croire que je suis encore un peu geek pour être capable de suivre.
J'en doute pas. Pierre, c'est vraiment hot, la technologie, puisque la F1 fournit comme information et tout ça. Est-ce que cet accès-là aux informations de la F1, il te donne aussi la façon dont Red Bull va gérer Adrian Newey d'ici la fin de la saison? Ou ça, faut qu'on déduise nous-mêmes comment on va gérer ça, parce que là, on sait qu'il s'en va, puis on sait où est-ce qu'il s'en va.
Oui, non, mais il faut que tu ailles sur d'autres sources.
Ouais, faut que tu ailles patiner un peu, là.
Un peu. Mais on a, je vous le dis souvent, et encore là, je ne fais pas de publicité pour eux, j'ai aucun lien avec eux, mais vraiment pour moi, le autosport, ou autosport en un mot, surtout encore là, si vous prenez un petit abonnement, là. Moi, écoute, je dirigeais le Grand Prix dans les années 80, puis c'était déjà une source extraordinaire moi, en beau papier glacé, là, tu vois ce que je veux dire. Il était un peu le format du billboard. On avait hâte de le recevoir. Ben maintenant, vous avez encore des journalistes très, très, très crédibles. C'est un peu pro britannique, là.
Uh-huh.
Mais c'est correct. On est prêt à vivre avec ça.
Tout le monde a une petite couleur, hein?
Ben oui. Ben, eux autres, en F1, sont pas mal colorés.
Mais, c'est une bonne couleur, même, bien apprêtée, là.
C'est bien apprêté. Mais si tu grattes un peu... bon, alors ça a été la grosse histoire des derniers jours, oui, évidemment. Adrian Newey qui a été présenté au monde entier comme étant maintenant le grand cerveau technique chez Aston Martin à l'âge de 65 ans. Bravo pour ceux qui sont dans le milieu de la soixantaine. Je fais partie de ce club select. C'est très bien de voir qu'il y en a encore qui se trouvent du travail parce qu'on a encore besoin des tempes grises. Et remarque que lui, il y a de moins en moins de gris. Il perd ses cheveux à chaque année. Mais on pense encore que ça demeure le principal cerveau. Et donc, on a annoncé ça cette semaine. Et il n'y a qu'un pas à franchir, Denis, pour voir la glissade chez Red Bull. Elle coïncide probablement avec le fait que Newey n'était déjà plus, depuis le Grand Prix du Japon cette année, donc c'est-à-dire à avril, n'était déjà plus au bureau.
OK. Parce qu'on savait qu'il partait?
Parce qu'on savait qu'il partait.
OK.
Ça y a pris du temps. En fait, oui, on savait qu'il partait. Ça, c'est bien que tu le dises comme ça, parce que lui, au départ, il a dit « Moi, je m'en vais. » Je pense que son départ a été accéléré. Tu te rappelles toute l'histoire de scandale avec Christian Horner et puis avec une employée. Mm-hmm. Je pense que Horner a été blanchi dans tout ça, là, en bout de ligne. Il reste que...
Ça a laissé des traces, on peut le dire comme ça?
Ça a laissé des traces pour Adrian Newey, qui est quelqu'un d'extrêmement intègre, qui est quelqu'un d'extrêmement droit. Il est bien avec son épouse. Puis ça fait un bout de temps que Newey dit, ben, je sais pas, moi, à part couper mon gazon puis aller à la pêche, j'aimerais peut-être ça concevoir un bateau pour, je sais pas, pour la Coupe des Amériques. Tu vois ce que je veux dire? Ce sont des ingénieurs qui sont pas arrêtables. Ils sont toujours en train de... Mais si tu concentres ça sur la S1, ça demeure encore des références absolues. Alors, tout le monde s'est lancé à la recherche et à la course à Adrian Newey. Plusieurs pensaient qu'il allait aboutir chez Ferrari. Finalement, il est allé visiter la nouvelle usine de Lawrence Stroll. En fait, que Lawrence Stroll a mis au monde, hein. Faut vraiment le féliciter puis le saluer pour ça. C'est une usine qui n'est pas seulement à la fine pointe. C'est une usine qui est l'avenir qui est l'usine du futur. En F1, Newey est allé là, puis il a dit « Ouais, c'est ici que je veux travailler. » Puis tu sais, il est tellement riche, cet homme-là, c'est pas plus ou quelques millions, là, puis c'est pas nécessairement le fait qu'il est devenu actionnaire minoritaire de toute la structure qui change quelque chose. C'est que lui, il a vu la possibilité d'avoir les ressources autour de lui qui vont lui permettre d'être créatif, un petit peu pour 2025, mais beaucoup pour la voiture révolutionnaire de 2026 qu'on attend.
Okay.
Bon, on l'a présenté cette semaine. Est-ce qu'il peut commencer à travailler maintenant? La réponse est non. Parce qu'en général, dans tous les contrats qui lient les cerveaux aux écuries d'F1, il y a des phases. Alors, tu as la phase où tu travailles, puis tu es heureux, puis tu renouvelles, puis tu prépares la voiture de l'an prochain. Bon, là, après ça, il arrive peut-être un divorce entre les deux. C'est l'ingénieur qui veut s'en aller ailleurs parce qu'il va être mieux payé. Wow, wow, attention, ça se fait pas aussi vite. Alors, tu dois, en bonne et due forme, légalement annoncer ton départ.
Mm-hmm.
À partir du moment où tu annonces ton départ, il y a des phases. Il y a la phase où tu es encore retenu au sein de l'équipe, à moins que l'équipe dise « on veut plus te voir déguerpi », puis souvent, c'est ça qui arrive, parce que tu nommes quelqu'un pour le remplacer.
Oui.
Ensuite, tu as la phase où tu peux annoncer où tu t'en vas, mais tu n'as pas le droit d'y aller.
Là, on est là, là.
On est là. Après ça, tu as la phase où tu as le droit d'y aller.
Okay.
Donc, en principe, on a fait quelque chose de tout à fait légal chez Aston Martin, mais en principe, Adrian Newey pourrait continuer à travailler jusqu'à la fin d'une date butoir là, qui l'amène à avoir le droit de quitter et aller travailler ailleurs. Ça ne se fera pas en partie. Il va rester rattaché au projet de voiture de route de Red Bull, mais n'aura plus accès au voyage. Et déjà, il n'était pas à l'usine là, depuis plusieurs mois.
C'est comme quand
alors, voilà où on en est.
C'est comme quand tu es séparé, mais que tu restes dans la même maison, tu essaies de pas trop te croiser, c'est ça?
C'est quoi l'expression anglaise? Been there, done that?
Same here.
Et je peux dire une chose, c'est que j'aurais dû aller à la pêche.
M'a la noté, celle-là. hey, Pierre, c'est une belle fin de semaine remplie de variétés pour toi. Puis je suis curieux parce que tu es un passionné de sport, puis ça, ben, tout le monde le sait. Fais-nous un top 3, mettons, des trucs que tu as le plus hâte de voir ou qui t'intéressent le plus dans tout ce que tu vas couvrir en fin de semaine, des aspects particuliers, soit du Grand Prix, soit du hockey.
Ah, dans ce que je couvre,
oui.
OK, parce que moi, depuis que la NFL est commencée, j'allais mettre ça dans l'équation, mais j'en fais pas de football.
Tes Packers ont perdu la première game, hein?
Non, mais ils ont surtout perdu leur corps arrière pour 3 à 6 semaines, alors disons que j'ai déjà le moral dans les talons.
Ah, c'est pour ça que ta fin de semaine est remplie de travail, c'est parce que t'es chagriné, là, je comprends
oui.
mieux.
Ben, oui, ils jouent contre les Colts d'Indianapolis en fin de semaine, ça devrait être un adversaire abordable. Okay. Le problème, c'est qu'est-ce que tu veux, Jordan Love... même s'il était très jeune, était déjà devenu si important. Puis là, ça tombe comme des mouches, incidemment. Mm. Love est sorti. Là, c'est Tua qui est sorti hier avec une commotion.
Ouais.
Là, la Ligue doit commencer peut-être à revoir encore là, ses façons de protéger le corps arrière. Écoute, comment dire donc? C'est toujours difficile de répondre à ça. Je te dirais qu'il y a des choses que j'ai hâte de voir du Grand Prix de Bakou et de la qualif de Bakou. Pourquoi? Parce que là, je pense que Ferrari est revenu dans le décor. Mm-hmm. On les pensait complètement largués, Denis, il y a 3 semaines. Je pense qu'ils sont revenus dans le décor. Charles Leclerc a été privé de temps de piste important aujourd'hui dans la 2e séance. Il a eu le meilleur temps. Bon, tu regardes ça, c'est séparé par 6 millièmes devant Sergio Pérez.
Wow.
Pas 6 millièmes sur un circuit interminable, sur un circuit extrêmement long qui devrait en principe départager beaucoup plus. Ben, t'as 6 millièmes qui séparent. Et puis, ben, McLaren, évidemment, est dans le coup. J'ai pas besoin de te dire. Écoute, c'est 6 kilomètres et 3 millièmes le circuit de Bakou. Alors donc, déjà maintenant, tu te dis, waouh, qui va avoir la pole? Hey, ça fait combien d'années qu'on s'est pas posé cette question-là? En voilà un point d'intérêt. Ensuite, c'est bien évident. Qui peut gagner? Ben, qui peut gagner? T'as peut-être 8 pilotes. Tu es parti dans 4 équipes qui peuvent gagner cette course-là parce que maintenant, tu as cette parité qu'on attendait depuis si longtemps qui vient de s'installer. Moi, j'ai encore un gros faible de lit, peut-être le deuxième élément secondaire pour le Grand Prix, la beauté de Bakou. Malheureusement, c'est exposé seulement pour 2 heures, puis c'est le nombre de tours exact là, du Grand Prix de Bakou, c'est 51. Donc, tu vois à peu près 51 fois la même chose. Mais honnêtement, je suis parti d'une indifférence totale, même d'un scepticisme total pour le succès de cet événement-là. C'est merveilleux.
Ah.
Écoute, je lisais sur la forteresse de Bakou. T'as vu les images? Hein?
Oui, c'est hallucinant.
La chicane là, entre le mur d'un édifice d'il y a à peu près 800 ans puis la forteresse de Bakou. Écoute, elle a été instaurée en 1100 quelque chose. La forteresse de Bakou, elle a été déclarée document mondial par l'UNESCO il y a quelques années. Tu vois les F1 passer là-dedans à une vitesse incroyable. Puis après ça, tu t'en vas sur 2 kilomètres. Imagine celle de Montréal, apparaît interminable, la ligne droite à 1 kilomètre. Là, tu t'en vas sur 2 kilomètres. Puis c'est une ligne droite qui n'en finit plus. Puis là, tu tombes dans le Bakou moderne.
Tu tombes dans le futur, oui.
Ben, tu tombes dans l'énergie, le Bakou de l'énergie. Uh-huh. Parce qu'il y a des ressources hein, en Azerbaïdjan. Puis il y a des ressources près de la mer Caspienne, dans tout ce coin-là. Alors, tu tombes là-dedans. C'est absolument hallucinant.
Mm.
Pour le hockey, ben là, d'accord, c'est un match de recul, mais je vais être plus basique que ça. J'ai toujours un peu le même trac avant le dépôt de la rondelle la première fois, que ce soit pour un match de recul, un match rouge contre blanc, un match préparatoire. Et ça, j'ai de plus en plus hâte à ce trac-là, d'avoir l'espèce de moment où...
T'es dû, bon, là?
Voilà, on est prêt pour la mise en jeu. Bon match, mesdames, messieurs. Puis là, tu dis, je vais-tu être capable encore? C'est vrai, puis je te jure, je me pose vraiment ces questions-là. Je
Arrête
le dis
donc.
À tous nos auditeurs, j'ai pas de pudeur à le dire. Est-ce que je vais être encore capable?
J'ai un bon après feeling, ça, je te dirais.
J'ai confiance.
Ben,
crois en toi, non, mais, Pierre, je pense que tu sais ce que tu fais.
Oui, mais que voulez-vous? L'être humain, c'est pas toujours noir ou blanc.
Je pense que c'est bien toujours douter.
J'ai assez hâte la première saison de hockey que la première mise au jeu, tu vas te mêler puis tu vas dire « Et on roule! » Ça va être un signal.
Il y a quelqu'un qui me l'a dit hier. Il a dit « Tu vas faire les deux. Fais attention pour pas dire... » que Ryan Backer vient de doubler Logan Mayo grâce à l'aspiration.
Un dépassement vers l'extérieur.
Tu vas avoir une voiture qui va rentrer au banc plutôt que rentrer au puits. Ça va être super.
La marque finale est l'écart 0.2 dixième. Alors, écoute, je ne suis pas rendu là, j'espère. En tout cas, Dieu merci.
Eh bien, Cole Caulfield, qui a été victime de l'effet d'aspiration. Là, vous savez, je vous en parle souvent.
Ben non, tu sais. On apporte des changements et non des arrêts au pied. Alors, mais tu vois encore, ça tourne beaucoup autour de la passion que j'ai pour le métier, beaucoup plus qu'autour d'un sport, parce que, écoute, tu m'envoies d'écrire du football, j'ai lunché avec Michel Lacroix cette semaine, et Jacques Lemieux, mon grand ami annonceur de l'époque de CKC et CFGL, je vous l'avais dit, on fait notre petit lunch anniversaire.
Traditionnel,
À chaque début de septembre. Michel est rendu à 50 plus. Moi, je commence 50. Et Jacques est comme moi, commence 50 aussi. Donc, on a déjà des grandes célébrations prévues pour 2025.
Wow.
Mais, et je demandais à Michel, c'est pareil, il y a encore la passion jusqu'au bout des ongles. Il y a encore hâte de faire la Coupe des présidents la semaine prochaine à RDS. Il a encore hâte d'être là. Et lui aussi, il fait le match des recrues en fin de semaine. Il dit « J'ai hâte d'être là. J'ai encore envie d'être là. » Jacques est un peu moins actif, mais Jacques est encore un enseignant passionné à ProMédia. Donc, il aide la relève, il aide les jeunes. Alors, je te dirais que la réponse à ta question tourne sûrement beaucoup autour du métier, beaucoup plus que d'un sport en particulier. Parce que, j'ai la même passion. Et ça fait déjà 41 minutes qu'on se parle, je m'en rends compte. J'ai encore la même passion professionnelle avec vous, qui n'a rien à voir, dans le fond, avec d'écrire un match du Canadien, tu vois ce que je veux dire, ou d'écrire un match des Browns, ou d'écrire un Grand Prix de F1. Alors, c'est une réponse plate. C'est souvent, des gens aimeraient donc ça que je dis, j'aime mieux le hockey que la F1 ou la F1 que le hockey. Mais je regrette, ce serait pas honnête si je répondais ça.
Mais j'haïrais pas ça que t'essayes ça, le mélange des genres, à un moment donné. Mm-hmm. Oh, un choix audacieux de Suzuki qui patine sur les lames tendres aujourd'hui.
Oui, et qui remet la rondelle à gravelle, quoi. Pain chaud est déjà prêt à sauter dans la mêlée. Oh, quel arrêt! Quel arrêt! De Véro!
C'est fabuleux. Je peux pas croire que j'entende ça.
Tout mêlé. Je sais pas, est-ce que c'est bon? T'aurais mieux marqué un beau but.
Non, ça baigne.
Je pense que Véro se voit coacher derrière le banc.
Non, j'aimerais ça monter quand au début.
Mais, et Audrey est toujours prête à sauter dans la mêlée, mais ça, vous le saviez déjà, la gang de boulevard, évidemment.
D'ailleurs, comment s'est faite ta première mêlée réseau, cher Audrey?
Hey, ça a super bien été, c'est sûr.
J'ai pas pu t'écouter. Je suis rentré trop tôt à l'île des Sœurs.
La bonne nouvelle, Pierre, c'est que c'est tous les samedis dimanches du côté de Montréal à partir de 8h.
Incidemment, demain, ça va être encore pire. On est en onde à 7h30 à 6h30 dimanche.
Oh, heureusement, encore quelques semaines devant moi. D'après moi, tu vas être bon.
OK, c'est promis au moins dans quelques semaines.
Mais ça a bien été, sans blague. C'est sûr que c'est un autre marché, mais non, écoute, c'est une formule de rock and chill à la base que j'aime beaucoup. Fait que ce soit à Québec ou Montréal, l'amour est le pari.
Ah, je suis convaincu que tu es déjà excellent.
Pierre, bonne fin de semaine, mon ami.
Je vous en souhaite une excellente, une très, très bonne. Profitez du beau temps. Je comprends qu'on a tellement de raisons de regarder RDS en fin de semaine. Mais n'oubliez pas que vous avez un petit truc qui s'appelle PVR sur votre appareil.
Ou tu sors une tablette en le regardant dessus. Là, ça se fait.
RDS, non. Ça sort dehors à cette heure. Il n'y en a pas de problème.
Ça sort dehors. Alors, essayez de trouver un petit peu de temps. Pour profiter du beau temps. L'hiver va venir bien assez.
Oui.
Merci, Pierre-Houd.
Salut, à la prochaine.
Salut, Pierre. Bonne fin de semaine. Fin de semaine drôlement bien remplie pour notre ami Pierre-Houd, qui, malgré tout, a pris 45 minutes de son temps pour jaser.
C'est fou, hein?
J'ai peut-être été égoïste en passant, je m'excuse. Ça m'intéresse tellement sa préparation, ce qu'il y a devant lui, avec quoi il travaille. Puis j'ai des notions du hockey parce que je l'ai vu travailler un petit peu, mais je voulais l'amener sur la F1 aussi parce que la F1, veut pas, t'es à distance pour faire ça. Puis je me suis toujours demandé comment il était grillé, comment il était équipé. J'ai trouvé ça super intéressant.
Il avait tout à portée de main en plus.
il est en train de faire sa révision du vendredi. C'est un gars qui travaille fort. Ça aurait été... Je veux faire attention, je veux pas mettre personne dans le trouble, mais je pense que Radio-Canada devrait demander à Pierre-Houd de chapeauter toute la couverture olympique avec le niveau de préparation qu'il y a.
La passion, l'expérience.
J'ai vu beaucoup de témoignages pendant les Olympiques où on disait qu'à Radio-Canada, il manquait de Richard Garneau, il manquait de Paul Oud, il manquait de Pierre Oud. Puis ce genre, tu sais, c'est des décennies de travail sportif, de préparation méticuleuse. Tu as cette ressource-là à portée de main. Moi, je pense qu'il devrait s'entendre puis dire « Hey, quand on couvre les Olympiques, on prend la personnalité de sport puis on la place dans le milieu de tout ça. »
Je rêve d'un combo qui jumellerait, entre autres, Dominique Gauthier avec Pierre Houde pour des cérémonies d'ouverture, wow, par exemple, parce que tu as le côté athlète, coach d'athlète, préparation, tu as le côté historique,
un bon
connaissance.
Duo, ça,
ouais. Ça serait un magnifique duo. Puis tu rajoutes une Evelyne Audet, je sais pas, dans l'eau, quelque chose du genre, puis on aurait le mélange parfait entre l'expérience puis la modernité.
Accident tout frais sur de la capitale, direction Est, à la hauteur de la sortie pour Laurentien. On vient de nous signaler ça. Hey, là, il faut faire une pause parce qu'il faut vraiment faire une pause. Mais en revenant, faites-vous-en pas. On va faire le grand tour de la circulation présentement à Québec. On sait qu'on est en transition. Là, il y a du baseball ce soir au Stade Canac. Beaucoup de déplacements vers la ville avec le festival Envol et Macadam d'un côté, le festival Fono de l'autre. Il y a le Grand Prix cycliste également qui va amener un transfert de l'autre côté. C'est fini, là?
Oui, c'est un Australien qui a remporté le Grand Prix cycliste, en fait. C'est la troisième fois qu'il le remporte. Laisse-moi juste retrouver son nom. C'est Michael Matthews. Donc, c'est la première fois que ça arrive que le même cycliste remporte trois fois le Grand Prix cycliste de Québec.
Il est 5h moins quart. Vous êtes à Boulevard 102.1. C'est Gravel dans le retour. Gravel.